Bienvenue chez vous sur France Bleu Périgord, Marie-Dominique Privé.
Du terroir au château, une histoire de cuisine en Périgord. Voilà le thème de ce premier dîner qui se tiendra samedi soir au château de Puy-Martin, aux portes de Sarlat. Toute l'équipe du château avait tout simplement envie de vous proposer un nouveau concept, une rencontre dînatoire entre historiens, géographes, sociologues et le chef Vincent Lucas qui est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Un chef qui a toujours surpris et qui continue à nous surprendre finalement.
Ouais, enfin j'essaye déjà de me surprendre moi-même, ce qui n'est pas toujours évident.
Ancien chef étoilé, une étoile pendant plus de 12 ans.
Ouais, 12 ans.
Une très belle adresse, le restaurant Les Étincelles à Sainte-Sabine et Borne, qui a définitivement fermé ses portes.
Oui, ça y est, j'ai décidé de fermer, on a des acheteurs, donc ça va se faire dans le mois de mai. On va fermer le gros bateau et puis tourner la page de tout ça, 18 ans, pratiquement 20 même, je dirais. Et puis voilà, la recherche de nouvelles aventures, cette rencontre avec Marie-Sophie et Bernadette du château de Puy-Martin, je dirais que c'est une belle rencontre, un petit flash commun, je dirais, hein, quelque part où on a envie d'aller plus loin et de dynamiser de toutes les façons qu'on peut trouver et de s'éclater, d'être à fond quoi.
Ouvrir un restaurant éphémère, c'est une nouvelle façon de cuisiner.
Je trouve que aujourd'hui, on est un peu dans cette tendance là, les châteaux. Qui ont besoin, toujours pareil, on parle d'expérience, et aujourd'hui, aller au resto tout seul, ça suffit pas. Je dirais que même aller dans un château tout seul, visiter des vieux lits et des draps qui pendent...
Une histoire, un patrimoine.
Ça suffit plus, en fait. Mm-hmm. Et c'est pour ça que on est parti dans les jeux, les escapes, les découvertes, plein de choses... Et là, puis Martin, on va rajouter cette expérience culinaire qu'on a déjà un peu commencé l'année dernière. Et là, cette année, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec les Flavors, donc qui sont les dîners prestige, qu'on commence le 13 avril. On continue le 18 mai. Et après, on attaque la saison donc avec ce resto éphémère, la table de Vincent, tout simplement.
Avec un sourire juste gros comme la patate, parce que c'est une véritable belle aventure.
C'est encore une aventure pour tout le monde, hein, pour moi, pour puis Martin. C'est un challenge parce que on ne sait pas où on va. C'est une totale surprise, l'aventure quoi.
Est-ce qu'un tel lieu que le lieu tel que le château de Puy Martin laisse place encore et toujours à la cuisine créative?
Bien sûr. Donc, y aura deux types de restauration, en fait. Il y aura une restauration très simple, basée sur le produit, la fraîcheur, la saison. Mm-hmm. Voilà, accessible. Après, il y aura les lundis soirs. Donc là, en fait, on va ouvrir la table à la clientèle extérieure, parce que sinon, c'est que
pour les clients des visites,
on va dire. Et je suis en train de préparer tout un programme, on va dire, dès lundi. Donc où là, comme tu me demandais tout à l'heure, il y aura la cuisine de Vincent Lucas, et pas la cuisine de Vincent, mais la cuisine de Vincent Lucas,
elle surprend. Vous avez toujours fait des mariages de produits qui sortent complètement des codes.
Voilà, des associations un peu particulières. Ouais. Aller au restaurant et s'emmerder, c'est pas ce que je veux, et c'est pas ce que je veux proposer, déjà. C'est pas moi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vendre, c'est soi. Il y a une grosse introspection sur soi-même.
Vous allez avoir un autre type de clientèle aussi.
Sur le lundi soir, tu parles ou
en général sur
le fait en général,
que les gens qui vont aller manger au château de Puy-Martin, c'est pas la même clientèle que le restaurant.
C'est pas la même démarche. Les gens, ils vont au château en premier, et après, ils ont un lieu pour manger. Donc finalement, on leur rend service. Et se dire, on est entre les Aizy et Sarlat, autant leur offrir une prestation totale pour pas qu'ils aient à s'inquiéter de savoir où est-ce qu'ils vont manger ce midi, où est-ce qu'ils vont manger ce soir, non. Tout est sur place et c'est ça qui est génial, en fait, finalement.
Une thématique, donc, samedi soir, du terroir au château, une histoire de cuisine en Périgord avec de nombreux invités. Parmi les invités, Olivier Royon, historien, il est l'auteur d'une thèse de doctorat sur la petite noblesse de la sénéchaussée de Sarlat, de la Fronde à la Révolution française. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une thèse, La petite noblesse du Sarladais de la Fronde à la Révolution française. Comme l'habitat, le mobilier et le vêtement, l'alimentation dans la région sarladaise, c'était un élément essentiel du paraître de cette époque.
Oui, bien sûr. On ne pouvait pas être noble si on n'avait pas un cheval, un domestique, et bien sûr, dans les grandes maisons, il fallait pouvoir inviter des amis, des parents, et montrer qu'on avait les moyens d'avoir une cuisine riche et variée.
Dans votre thèse, justement, vous mentionnez que le nombre de plats, leur diversité, leur raffinement culinaire distinguaient les grandes maisons des plus modestes. Un bon cuisinier faisait la différence ?
Oui, bien sûr, mais il n'y en avait pas beaucoup en Périgord. J'en ai, bien qu'ayant fouillé vraiment les archives depuis Martin, mais aussi les archives de Périgueux, j'en ai trouvé 4.
Seulement 4 ?
4, oui. Ouais. Dans les familles les plus riches, les Devaux à Montignac, les Refignac de Marzac à Marzac, chez Hubert de Boucher de la Tour du Roc, au Château du Roc, à côté de Puy-Martin, et chez le Comte de Berthier au Château de Grottejac.
Cette petite noblesse du Sarladais a connu aussi l'arrivée de nouveaux produits comme le café, comme le citron, comme le chocolat, Olivier.
Alors oui. Alors pour le chocolat, c'est à mettre à part parce que on trouve pas vraiment de chocolat dans la sénéchaussée de Sarlat.
Ouais.
Mais pour le reste, le beurre, le café, bien sûr, le thé. Effectivement, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, beaucoup de nobles du Sarladais connaissaient ces produits.
Et pourtant, le Périgord, à cette époque-là, était un Périgord, est-ce qu'on peut dire, finalement, avec de la pauvreté ?
Ah oui, bien sûr.
En général.
Déjà, la population paysanne était relativement pauvre, ouais. Même si certains éléments se distinguaient par des revenus plus élevés. Et pour la noblesse, il en allait de même. Les chefs de maison, en général, les aînés de la branche aînée étaient relativement aisés ou riches, mais les cadets ou les cadets de cadets ou les cadets de cadets de cadets pouvaient être très pauvres, effectivement.
Olivier Royon, vous allez intervenir samedi soir au château de Puy-Martin.
Oui, j'interviens samedi soir, ouais. Oui, pour tracer à grands traits l'histoire du château de Puy-Martin et pour faire une petite intervention sur la cuisine dans les châteaux périgourdins au XVIIe, XVIIIe siècle.
En résumé, en quelques mots, si vous deviez donc résumer cette cuisine périgourdine de cette époque, ce serait quoi ?
Ben, je dirais qu'il y a des éléments de nouveauté dont vous avez parlé, et puis à côté de ces éléments de nouveauté, il y a beaucoup de choses qui sont traditionnelles, comme le ragoût, le pâté en croûte. Voilà, ça, ce sont des choses qui étaient au XVIIe, qui devaient certainement exister au XVIe et qui continuent d'être en usage à la fin du XVIIIe.
Et qu'on continue de déguster un bon pâté en croûte, c'est pas mal, hein, Olivier ?
Oui, bien sûr.
Et si vous voulez découvrir cette thèse, elle est disponible sur Internet, La petite noblesse de la sénéchaussée de Sarlat et de la fronde de la Révolution française. C'est signé Olivier Royon, qui était avec nous sur France Bleu Périgord. Merci à vous et belle soirée à vous samedi soir.
Bien, merci.
Au revoir. Bonne journée à vous. Comment fait-on quand on est chef pour s'approprier d'une cuisine dans sa château où il n'y en a pas de cuisine finalement, Vincent ? Comment fait-on ça ?
C'est là tout le défi et le sport.
C'est un gros défi.
Après là, ça tombe bien parce que justement, on va travailler sur cet esprit de cuisine médiévale, on va dire, hein, de château. Donc évidemment, on va se servir de la cheminée, obligatoirement. Donc on va se servir d'une cocotte, on va faire, comme disait Olivier, on va partir sur un ragoût, pas forcément de viande, mais des haricots, des choses qu'on mangeait avant et qui se cuisaient tout seul dans la cheminée. Je vais partir sur l'idée de la tourte aussi. Il faisait beaucoup de tourtes là qu'on va passer sur le côté dessert avec des pommes confites. Voilà, de la gourmandise et du croquant, des cuissons longues, évidemment. On va se mettre un petit peu de foie gras dans tout ça, parce que bon, il faut aussi parler de ces produits. Hein. On aurait voulu parler de la truffe, mais on va la zapper. Par contre, l'entrée va être autour de ce thème, mais sans la truffe. C'est-à-dire utiliser d'une autre façon les produits qui subliment la truffe, c'est-à-dire l'œuf, la crème, la pomme de terre. Sauf qu'on va l'aborder différemment sur un côté plus printanier autour des fleurs, des herbes, de l'oseille. L'oseille était très utilisée avant.
Ouais. Là,
on a parlé, Olivier a parlé du café, donc c'était pas prévu, mais là tout de suite, je me suis dit, ben tiens, dans cette entrée, je vais mettre du café. Donc voilà, on va utiliser un peu de champignons. Et du coup l'accord donc ça j'adore en fait que j'entends quelque chose et ça
vous
et
pouvez
ça
changer la dernière minute
ah ouais ben non mais là ça y est c'est voilà il y aura du café dans l'entrée c'était pas prévu mais ça sera comme ça
merci
donc c'est et... cool merci Olivier s'approprier on y arrive toujours et là ce qui est bien c'est qu'on essaye aussi de cuisiner devant les gens et c'est là où il y a une belle interaction ils me voient bosser ils me voient transpirer parce que dans la cheminée qui est très grosse je peux vous dire que je transpire
c'est clair.
Mais bon, voilà, c'est le côté fun aussi, hein, parce que ok, on fait une cuisine ancestrale, en tout cas sur ce thème-là, mais on est là aussi pour s'amuser.
Alors, il y a un rendez-vous également au mois de mai qui va vous faire énormément plaisir également, ouais, puisque c'est un rendez-vous à quatre mains et pas avec n'importe qui, bah, puisque vous allez accueillir.
J'ai invité mon pote Nick Honeyman qui vient d'avoir une étoile enfin. Hein, on l'attendait.
Le petit Léon à Saint-Léon-sur-Vézère.
Voilà. Mon petit Nick aussi, il est tout heureux et c'est un retour, hein, puisque on a déjà fait un quatre mains il y a quelques temps chez lui et ben là c'est encore une occasion de le mettre sur le devant de la scène.
On est passé à de 6 à 7 étoiles dans le département, c'est suffisant pour vous selon vous Vincent et on peut toujours plus. C'est
suffisant, je suis
vous
pas sûr
qu'on ait eu l'étoile.
Disons que je suis pas sûr qu'on aborde toutes les localisations possibles pour qu'il y ait un peu des étoilés partout. Je pense qu'il y a des zones encore vides. Donc ça serait bien qu'on arrive à les remplir. Après, il y a aussi des bonnes tables qui n'ont pas d'étoiles. C'est ce qu'il faut se dire. Donc il y en a qui sont dans la lumière, d'autres dans l'ombre, mais ceux qui sont dans l'ombre ont beaucoup de lumière en eux. Donc,
Et est-ce qu'on vit bien sans étoiles, Vincent Lucas ?
On vit bien sans étoiles après la souffrance. Aujourd'hui, je suis guéri de tout ça. Je suis pas guéri de la passion, hein, donc du coup l'étoile est toujours là dans mon cœur et dans mes futurs projets qui se feront sans doute autour d'Excideuil dans quelques temps. Peut-être que j'aurai encore envie de reconquérir cette étoile, mais encore d'une manière différente, encore plus intimiste, avec des cuissons différentes, je vais aborder, on va dire le. Je vais fusionner la cuisine avec la salle, ce qui aujourd'hui se fait mais qu'à moitié.
Du terroir au château, une histoire de cuisine en Périgord, le thème de ce premier dîner qui vous attend au château depuis Martin. Samedi, il y en aura de nombreux durant tout au long de cet été et on en parle avec le chef Vincent Lucas.